Bienvenue à l'émission Un jour à la fois en compagnie d'Isabelle et son équipe.
Bonjour à tous, ici votre animatrice Isabelle. Bienvenue à l'émission Un jour à la fois qui est dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association internationale de personnes qui partagent entre eux leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'en aider d'autres à se rétablir de l'alcoolisme. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée, ils s'autofinancent. Les AA ne sont associés à aucune secte, formation religieuse ou politique, ils sont multiraciaux, ils n'endossent et ne contestent aucune cause. Basé sur les principes AA et de nature spirituelle, ce mode de vie, lorsque mis en pratique, chasse l'obsession de boire et permet de vivre heureux, joyeux et libre. Nous recevons aujourd'hui, comme à chaque semaine, un membre de cette fraternité. Notre invité vient nous parler de sa vie, des difficultés, de son passé et de son expérience de rétablissement. Aujourd'hui, nous avons comme invité Jean-Philippe. Jean-Philippe, membre des Alcooliques Anonymes, et puis c'est un grand jeune homme, là, et puis vous allez sûrement aimer autant que moi connaître son histoire. Puis moi, ben, j'ai hâte de le connaître mieux, de le connaître dans sa souffrance et de le connaître. Ben là, je vois qu'aujourd'hui, il a l'air vraiment de bien aller. Alors, voilà, on lui laisse la parole immédiatement. À toi, Jean-Philippe.
Oui, super, merci beaucoup. Ben, bonjour tout le monde, je m'appelle Jean-Philippe, je suis un alcoolique et... Donc, ben c'est ça, c'est un privilège pour moi de pouvoir vous parler aujourd'hui. Ça fait 3 ans et demi que j'ai pas consommé, j'ai arrêté la cigarette, l'alcool, la drogue. Il y a à peu près 3 ans et demi, ma date d'abstinence, c'est le 21 novembre. Et donc, c'est ça, j'avais 35 ans. C'est ça, quand j'ai arrêté là, pour la bonne jusqu'à aujourd'hui. C'est sûr que ça n'a pas été évident. Là, j'ai fait plusieurs thérapies. J'ai essayé par moi-même là, de nombreuses fois. Mais la dernière fois, je suis allé faire une thérapie à Longueuil. Puis en sortant de thérapie, c'est surtout ça l'important. Moi, je me suis tenu. J'ai commencé à faire des meetings parce que toujours, je faisais des bonnes thérapies avant. J'en ai fait 6 ou 7, je pense. Là, puis, je performais, si on peut dire, dans mes thérapies. Je voulais, j'avais toutes les bonnes motivations du monde. Mais en sortant, je me retrouvais tout seul à affronter toutes les situations qui portent à boire. Au début, quand on est bien fragile, puis c'est ça. Donc, je replantais tout le temps. Puis ben là, je commençais à me décourager, à m'imaginer que ça allait être impossible d'arrêter, puis que je serais jamais capable. Mais c'est ça, à 35 ans, en sortant de thérapie, j'en avais 36 à ce moment-là. Je me suis dit que je voulais plus prendre de chance, que je voulais mettre toutes les chances de mon côté. Donc là, j'ai commencé à faire des meetings, puis à me tenir avec des gens qui étaient dans le même bateau que moi, donc qui un jour à la fois avaient réussi à réussissaient à, en se tenant en gang à ne pas consommer, à ne plus boire. Donc c'est ça. Je pense que j'avais épuisé toutes mes solutions, comme on dit. Là, j'étais vraiment rendu à m'abandonner. À faire confiance aux autres. Là, moi, c'est beaucoup ça, un de mes problèmes. Là, j'étais peut-être très timide. Ouais, c'est ça. C'est ce qui m'a amené beaucoup à la consommation quand j'étais adolescent. Là, le fait d'être plus pogné, d'être plus gêné. Donc, très vite, là, ça m'a aidé à entrer en contact avec les autres adolescents, les autres amis. La polyvalente, là, quand j'ai découvert l'alcool, ça m'a vraiment ouvert les ailes d'une certaine façon. Là. Jusqu'à temps que ça me les brûle carrément, puis que je commence à perdre le contrôle de ma vie et tout ça. Donc, à partir de, c'est ça, je dirais, à partir de peut-être 15 ans jusqu'à 35 ans, là, ça a été de la consommation pour tolérer la vie. Là. Autrement, j'étais souvent tout seul, puis je pense que j'étais déprimé. J'avais un ennui, la vie m'ennuyait. Fait que c'est sûr que de m'étourdir... entrer en contact avec des gens, ça se faisait par l'alcool. Et puis là, après ça, ben je m'étourdissais avec toutes sortes de substances. Puis ça a fait un bout, là. Ça a fait la job pendant un bon moment. Là. J'étais quand même relativement bien là-dedans. Puis je trouvais mon air d'aller. Mais en vieillissant, ben c'est ça. Là, ça a été de plus en plus grave. Puis On parle de perte d'emploi, je devenais de moins en moins un gars de confiance. Là. On pouvait plus vraiment se fier à moi. J'utilisais des substances de plus en plus chimiques et dangereuses. Toujours l'alcool a toujours été à la base de ça, moi, ça. Donc, voilà, je me rendais bien compte là, en faisant des petites thérapies externes, là, puis en commençant à lire, puis à me questionner sur mes comportements, que j'avais un problème. Mais ça a pris du temps avant que je me branche à vouloir carrément arrêter. Là. J'ai branlé dans le manche longtemps. Mais c'est ça, à la fin, à 35 ans, j'étais rendu, il me restait 20$ dans mon compte, puis j'étais sur le bord probablement d'aller, puis je savais plus où aller, en fait, là. Donc, c'est ça. Alors, grosso modo, c'est pas mal ça. Moi, je viens d'une famille plus ou moins normale, là, avec deux parents, là, puis qui... j'avais un frère, on est la classe moyenne, pas mal, puis tout allait quand même relativement bien. Il y a pas de famille parfaite, là, mais la mienne n'était pas pire que les autres. J'ai bien l'impression, c'est ça, que ça a été une sorte d'automédication. L'alcool, j'ai trouvé que c'est vraiment une belle solution. Une très, très belle solution quand j'étais ado là, de pouvoir me dépogner avec ça. Puis doucement, j'ai glissé là-dedans. Je sais pas comment ça s'est exactement tricoté, tout ce gros problème-là, mais à un moment donné, j'étais rendu de l'autre côté de la ligne, là, puis c'était impossible là, de... En tout cas, c'était... j'en ai vraiment, comme vous autres, comme la plupart des gens, j'en ai beaucoup arraché pour finalement arrêter. Puis ben là, ce matin, c'est ça, je suis content de vivre cette expérience-là. C'est un peu bizarre, là. C'est ça, on est dans un studio de radio. C'est ma première expérience. Un beau dimanche matin où on est trois dans le studio puis on a tous, je pense, bien dormi. Samedi soir, c'était la soirée des, entre autres, des parties ou des souleries ou de n'importe quel... Mais moi, j'ai bien dormi. Je suis bien content. Beaucoup de gratitude pour... juste de dormir, là, c'est tellement... Je le dis tout le temps dans chacun des partages, juste de dormir, d'avoir la chance de déjeuner ce matin, que ça rentre, là, que j'avais pas l'estomac trop plein d'alcool ou que ça... Tu sais, j'ai pas vomi, tout s'est bien passé, j'ai pris une douche, je suis allé faire mon jogging, j'ai une belle journée en avant de moi. Puis là, c'est ça, je vis une belle expérience, là, à jeun. C'est ça, je suis capable maintenant de vivre des affaires nouvelles, puis un peu déstabilisantes, mais sans perdre tous mes moyens. J'ai appris grâce à fréquenter des gens, c'est ça, un groupe de gens qui m'ont inclus dans leur manière de vivre, qui m'ont permis de faire de reprendre le goût à participer à l'aventure humaine, c'est ça. Vous m'avez donné la chance de participer, puis en m'accueillant dans les salles de meeting et tout ça, donc c'est ça, je suis très heureux de pouvoir un peu, du mieux que je peux, transmettre un message d'espoir là, ce matin, là, parce que, oui. Donc voilà, c'est ça, tout seul, je suis bien intelligent, je suis bien capable de faire bien des affaires, mais ça a l'air que de vivre à jeun, ça se fait pour moi, en tout cas, en groupe. Puis il y a d'ailleurs mon parrain, j'ai appelé mon parrain, on se parle plusieurs fois par semaine quand même. Puis je l'ai appelé, ça c'est un gars qui m'a beaucoup aidé à ce que je puisse reprendre mes aises sociales, si je peux dire, en me donnant son numéro de téléphone, en me disant « tu peux m'appeler à tous les jours, puis on va parler du programme ». Puis c'est la première personne à jeun qui m'a permis de c'est ça, recommencer à socialiser normalement. Puis là, c'est comme je vous dis, ça fait 3 ans et demi que je pratique. Moi, je trouve que c'est vraiment une histoire de pratiquer. Puis aujourd'hui, ben ma vie va très bien. J'ai repris les études. Je suis en train de... Au lieu de rêver ma vie, je suis en train de réaliser des rêves, on peut dire. Là, je parle moins, je suis plus dans l'action aujourd'hui. Mais voilà, encore une preuve aujourd'hui que la vie est assez étonnante. Puis j'apprends au fil des années à avoir moins peur des situations. Là, le programme des AA s'est beaucoup mis l'accent sur la spiritualité. Puis si on peut ramener ça à un autre mot, moi, je trouve que c'est la confiance ou l'amour. Disons que l'emphase est beaucoup mis là-dessus. Quand on rencontre les gens, c'est des gens bienveillants qui sont contents de voir que tu essaies d'arrêter de consommer. Qui sont juste bien heureux, que tu te donnes une chance, puis que, en sachant très bien quel parcours à peu près, sans t'avoir parlé, là, ils savent à quel point t'as souffert, là, si t'es rendu dans une salle des alcooliques anonymes. Fait que, c'est beaucoup d'amour, je trouve beaucoup de bienveillance. Il y a énormément de gens qui m'ont donné leur numéro de téléphone. La plupart de mes connaissances sont des membres des alcooliques anonymes. Des gens que, c'est ça, il y a toujours mon côté sauvage qui risque de revenir, mais grâce au fait que j'essaie d'entrer en contact avec, de plus rester tout seul, là, vraiment. Tu sais, je me rends compte que l'alcool, ça a été, ça m'a laissé dans ma solitude. Ma solitude était tolérable parce que je pouvais consommer, mais quand j'ai arrêté de consommer, ben là, il fallait bien que je suis un gars bien intéressant, mais c'est un peu plate tout seul avec moi-même, là. Fait que les membres m'ont permis de me faire des amis, de juste ne serait-ce que de serrer des mains. Moi, ça me faisait du bien, tu sais, d'être reconnu un peu, de prendre des nouvelles des autres, que les autres prennent de mes nouvelles, tu sais. Je sentais, crème, que j'avais quand même un petit but dans la vie, là, que j'avais... C'est ça. Parce que tout le temps, être tout seul, ça porte à boire. Moi, c'est un des dangers qui me guette, là, de m'isoler, puis de... C'est tout un entretien. Vraiment, l'aventure de la sobriété, là, ça prend des trucs, puis ça prend idéalement des gens, c'est ça, qui ont plusieurs années de sobriété derrière la cravate. Puis, donc, c'est ça que, jusqu'à présent, je découvre depuis 3 ans et demi, tous ces trucs-là.
Merci Jean-Philippe pour ce premier segment de ton partage. Je comprends bien le début de ta consommation. Hein. Souvent, c'est un mal-être, une timidité. Puis tu l'as tellement bien dit en disant « ça m'a ouvert les ailes, mais ça les a brûlées après hein, ». J'ai aimé ça, cette image-là. Ce qui fait qu'on pique direct du nez. Hein. Puis aussi... Ta belle explication de l'entretien, de ce que c'est AA, de pas rester seul, parce que c'est un mouvement justement où est-ce que c'est le nous qui est important et de ne pas s'isoler et plutôt le contraire, de faire confiance aux autres autour de nous. Puis c'est vrai que quand on a consommé, puis ce manque de confiance qu'on a envers l'être humain, en les trahisons qu'on a pu vivre ou quoi que ce soit, qu'on vienne d'une bonne famille, une famille normale ou pas, dans notre intérieur, dans notre être, on a toujours ce sentiment que les autres vont nous blesser, puis ça boit bien. Mais bon, merci beaucoup parce que tu nous en as dit déjà pas mal, tu sais, sur comment Alcoolique Anonyme peut nous aider. Puis tout de suite après la pause, on va te retrouver pour la suite.
Comme une force de la nature, l'alcool commence à détruire notre monde. Le chaos nous envahit. Nous perdons le contrôle de notre vie. Mais on peut arrêter la tempête. Les Alcooliques Anonymes peuvent nous aider à traverser la tempête un jour à la fois. Dans les jours sombres, il y a de l'espoir. Il y a les Alcooliques Anonymes. Si l'alcool est devenu un problème dans votre vie, nous sommes dans l'annuaire téléphonique et sur le site aa.org. Les Alcooliques Anonymes, nous pouvons aider.
Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie d'Isabelle et son équipe.
Nous sommes de retour à l'émission « Un jour à la fois ». Voici maintenant un court texte inspiré de la littérature AA, aujourd'hui tiré du livre « Vivre sans alcool ». C'est à la page 30 et on commence au bloc ou au paragraphe C. « Un parrain n'est pas un thérapeute ni un conseiller professionnel d'aucune sorte. Ce n'est pas une personne qui prête de l'argent, procure des vêtements, du travail ou de la nourriture. Ce n'est pas un expert médical ni un spécialiste dans les domaines religieux, légal, familial ou psychiatrique, bien qu'un bon parrain puisse convenir de discuter confidentiellement de ces matières et souvent suggérer certaines sources compétentes d'aide professionnelle. Un parrain est simplement un alcoolique abstinent qui peut aider à résoudre un seul problème. Comment rester abstinent? De plus, le parrain n'a qu'un outil à sa disposition, son propre expérience personnelle, pas une sagesse scientifique. Les parrains sont passés par là et souvent ils ont pour nous plus de considération, d'espoir, de compassion et de confiance que nous en avons pour nous-mêmes. Chose certaine, ils ont plus d'expérience. Se rappelant leurs propres conditions, ils tendent la main pour nous aider, pas pour nous humilier. Il a été dit que les alcooliques ne devraient jamais garder pour eux leurs secrets intimes, surtout ceux qui les culpabilisent. Les partager nous protège et deviennent un antidote merveilleux à toute tendance à l'apitoiement excessif et à l'égocentrisme. Un bon parrain est une personne en qui nous pouvons nous confier et révéler tout ce que nous avons sur le cœur. Vous voyez, c'est beau, hein? C'est ça le rôle du parrain et bien d'autres choses, hein? Bien important, le parrainage, le marrainage... chez les AA, nous disons tout le temps aux nouveaux qui arrivent de se trouver un parrain, une marraine assez rapidement. Pour les hommes, un parrain donc du même sexe, puis pour les filles, une marraine du même sexe, c'est toujours mieux aussi pour éviter tout malaise de situation qui pourrait se subvenir. Et puis, moi, j'ai terminé le petit passage de lecture, puis je vais plutôt laisser la parole à Jean-Philippe, parce que c'est lui l'important aujourd'hui, c'est d'écouter son message. Alors, à toi, mon cher.
C'est ça, j'avais commencé un petit peu à en parler tantôt, là, de mon parrain. Moi, ce qui arrivait, c'est que j'étais en thérapie à Longueuil. J'étais dans une maison, c'était basé sur les 12 étapes et tout ça. Ça a duré 3 mois, mon internement, là. Mais les fins de semaine, on pouvait sortir. Puis moi, je venais à Montréal en pensant que, bon, plus tard, après la thérapie, je voudrais venir vivre ici à Montréal. Et puis, j'allais faire un meeting le dimanche matin. Puis, c'est comme ça que, par hasard, j'ai rencontré Steve, qui est devenu mon parrain. C'est ça, je l'ai connu quand j'étais en thérapie, puis quand je suis sorti, c'est ça, on avait déjà établi un lien qui s'est accentué parce que là, j'avais accès au téléphone à tous les jours et tout ça. Puis étant moi-même un gars un peu sauvage, il faut pas me sauter dessus. J'étais un peu craintif. Je me demandais c'était quoi ces meetings-là. Je connaissais un peu quand même, mais j'avançais doucement là-dedans, puis Steve a juste eu la bonne approche en me racontant simplement son histoire qui collait vraiment beaucoup à la mienne. Vraiment, je le sentais très bienveillant. Il y allait d'une manière, sans vouloir me convertir ou quoi que ce soit, tu sais, juste en partageant, puis en me demandant comment j'allais, puis en prenant des nouvelles de dimanche en dimanche, puis c'est ça. Donc, je considère vraiment que ça m'a été très utile, ce numéro de téléphone-là, puis cet être humain là au bout du fil qui prenait toujours le temps de me parler, puis qui m'encourageait à ce qu'on développe doucement un lien. Je pense que je me suis pratiqué à l'amitié avec ce gars-là en me disant, j'ai l'impression que j'étais quand même assez... j'avais un gros égo, fait que peur d'avoir de la ridicule, peur d'avoir rien à dire, peur de... Parce que moi, ça allait très bien quand j'étais vraiment saoul et tout ça. J'avais plein d'histoires, là. Mais à jeun, c'était une autre affaire. Je me sentais vide. J'avais l'impression que je vivais rien de racontable. Puis, c'est ça. C'est pour ça que je dis que je me suis pratiqué à raconter mes journées, dans le fond, à un gars qui, qui était là, puis qui m'écoutait, puis qui me parlait. Il aimait bien ça me parler de la fraternité. Puis, fait que doucement, j'ai repris. C'est ça, je me suis fait un ami, puis toujours nos discussions étaient basées sur le rétablissement, puis doucement, ça s'élargissait sur la vie en général, parce que c'est ça, de se rétablir, c'est la vie. On commence au départ, je me rappelle, on vit toutes les premières fois, là, premier Noël à jeun, première fois qu'on va rencontrer une fille à jeun, qu'on l'invite au restaurant, puis que toi tu bois pas, mais qu'elle peut-être qu'elle va boire, puis qu'est-ce que tu vas faire, puis que là tu t'en vas en entrevue, puis... en entrevue pour un travail, puis le premier vendredi où ta semaine est finie, fait que tout ça, toutes ces premières fois-là, on nous avait quand même bien préparé en thérapie, mais c'est ça, un coup que t'es rendu, t'es sorti de ta thérapie, là, la vraie vie est là, puis toutes les occasions, tous les dépanneurs, toutes les épiceries, tu peux pas éviter le contact avec l'alcool. Puis c'est ça, la première année, les 4 premières saisons, moi, je considère qu'elles sont cruciales. En tout cas, dans mon cas, c'est... ta première fête, là, première Saint-Valentin, tes premières vacances, c'est quand tu es habitué depuis des années à des méthodes dans ton cerveau qui te dit « Ah ben là, c'est le temps de revirer une brosse, c'est le temps de se la couler douce, c'est le temps de se faire du bien avec l'alcool. » C'est ça, quand tu veux changer, moi, ça s'est pas fait tout seul. Fait que ce gars-là, puis c'est les gens en thérapie, des fois j'arrivais dans un meeting, j'avais soif, là, tu sais, c'était important que... je pense que j'ai été chanceux là, d'être capable d'arrêter de boire, mais en partie, sauf que c'est ça, la partie où il n'y a pas de chance, c'est que j'allais au meeting. T'sais, j'allais voir du monde, je me donnais cette opportunité-là de me dire « ça se peut que l'envie va partir si j'en parle un peu, puis si je garde pas mon obsession pour moi. » Fait que encore une fois, c'est les alcooliques anonymes, les salles de meeting qui m'ont permis de faire ça, tu sais, parce que c'est quand même une affaire assez incroyable que de tout le temps rechuter. Les gens comprenaient pas. C'est dur de comprendre quand t'es pas alcoolique que tu fais tellement de niaiseries. Moi, je suis quand même assez très responsable, mais quand je buvais, là, j'ai fait des faux dépôts dans des caisses populaires. Je me suis mis en danger avec la police, probablement. J'ai eu des comportements, j'étais baveux. Quand j'étais sous influence, des fois que j'étais frustré, puis là, je crousais les filles. Le chum était à côté. Là, j'avais aucune. Mais j'étais un bon gars, mais des fois, je dérapais, tu sais. Puis. J'étais vraiment plus moi-même. Puis vu de l'extérieur, les gens se demandaient, mais Chris, comment ça se fait que tu agis comme ça? T'es pourtant un gars intelligent, mais c'est ça. Donc, pour moi, ça a été bon de rencontrer des gens qui m'ont raconté leur histoire de fou, qui comprenaient mes obsessions, qui comprenaient que même si j'avais beaucoup de choses à perdre quand même, ne serait-ce que ma santé, puis le fait d'avoir peur d'aller dans la rue, là, ça aurait pu aller jusque-là, moi. Ben c'est ça, ces affaires-là, ça arrive aux alcooliques, c'est comme ça. Moi, je peux plus boire un verre d'alcool. Là. Je me mets vraiment en danger. C'est possible que je vais rester chez moi pour les premières semaines, tranquille et tout ça. Là, ça va se contrôler mon affaire, mais un jour ou l'autre, moi, je vais sortir de mon chez moi, puis je vais aller boire avec d'autres personnes, puis je vais passer des nuits à consommer, puis là, je vais vraiment me mettre en danger. Donc, puis les obsessions, c'est ça. Ça a été très important pour moi de pouvoir en parler, puis de pouvoir parler de la vie en général avec des gens qui sont habitués comme moi à avoir les mêmes béquilles, à avoir les mêmes stratégies sociales pour s'adapter, tu sais, à la vie en général, le stress. Moi, je pense que j'étais vraiment anxieux, stressé, donc tempérament. Maintenant, je comprends que c'était sans doute un grand manque d'amour envers moi-même. Ça, là, je... de pas me permettre le droit à l'erreur, de toujours vouloir être comme moins pris en défaut. L'alcool, ça me permettait d'être plus, comment on peut dire, plus relax, là, d'être moins stressé. Mais ça, c'est ça, à jeun, ça a été bien pour moi de côtoyer des gens qui voulaient cheminer à être bien. Ils disent dans les Alcooliques anonymes, heureux, joyeux et libre. Ben, moi, c'est ça que j'avais quand j'étais gelé, là. Pour le moment que ça durait, là, mais c'est ensuite quand je perdais l'effet là, que là, c'était l'enfer, là, souvent. Là, le prix à payer était tellement démesuré. En rencontrant des gens qui me disaient, ben ça se peut. T'sais, je les voyais, là, avoir réussi à maintenir un bon équilibre, développer un bon équilibre de vie, être des gens responsables, des gens heureux, des gens qui avaient appris à relever des défis à jeun, qui n'avaient plus peur, en fait, de vivre. Puis bon, ben c'est ça que je voulais. Je voulais être libre là, à 100%. Je voulais être un gars heureux. Encore et sinon plus aujourd'hui, là, maintenant que je sens que ça fonctionne vraiment. Avec toutes sortes de trucs, là, c'est ce qu'on apprend aussi. Là. Je vois sur la table, il y a un livre qui s'appelle « Vivre sans alcool ». Mais ça, c'est un livre qui, pour ceux qui ne le connaissent pas, que j'ai acheté deux ou trois fois, qui donne un paquet de trucs, là, comment passer ses journées. Ça peut aller des suggestions d'aller au musée, d'aller appeler un ami, de manger du chocolat quand tu as trop envie de consommer de l'alcool. Le chocolat, il y a du sucre, là, ça apaise les envies. Parce que dans l'alcool, tout le monde... En tout cas, vous le savez peut-être, là, il y a beaucoup de sucre et tout ça. Fait que j'ai pris beaucoup de trucs, beaucoup de suggestions des membres. J'allais voir ceux qui avaient l'air d'être heureux. C'est ça. Pour l'instant, au jour le jour, 24 heures à la fois, j'essaie de pratiquer ces trucs-là.
Merci Jean-Philippe, c'est vrai, hein, 24 heures à la fois, c'est un programme d'un jour à la fois, le titre de notre émission d'ailleurs. Il y a plusieurs choses qui m'ont interpellée, je me suis reconnue dans des passages aussi que tu as dit par rapport à comment qu'on se sent, que on a les mêmes béquilles. Ben oui, je me suis reconnue moi aussi avec ces béquilles-là, de comment qu'on rentre en relation, puis avec l'alcool, ça, tu sais, puis aussi la première année sans alcool, toutes les saisons qu'on passe. J'ai aimé ça de dire que, tu sais, que t'envoies l'image des saisons, parce que c'est vrai, on est tellement habitué de mettre dans toutes nos activités l'alcool, dans toutes nos sorties, que là, on apprend à vivre sans. Le livre « Vivre sans alcool » le dit, mais ça prend beaucoup d'outils, tu sais. Puis nos premières fois sont toujours très dures, on doit compter sur la bienveillance des membres puis de ceux qui l'ont fait avant nous. J'ai trouvé aussi, quand t'as dit « je sais pas, j'ai arrêté de boire, il y a peut-être des choses du hasard, mais j'y ai mis du mien aussi », là, tu sais. Moi, ça m'a fait penser, après les 12 promesses des AA, c'est toujours écrit, est-ce que ce sont là des promesses extravagantes? Puis on dit, nous ne le croyons pas, ces promesses se réalisent parmi nous, parfois rapidement, parfois lentement, mais elles se matérialisent toujours si nous travaillons dans ce sens. Fait que c'est ce sens-là que je pense que tu dis, tu y mets du tien. Alors, on passe tout de suite à la pause pour revenir retrouver Jean-Philippe.
Si l'alcool a perdu de son charme pour toi, et si tu ne peux pas arrêter de boire,
j'ai fait quelque chose et ma vie a changé.
J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis.
Nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les Alcooliques Anonymes.
Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie d'Isabelle et son équipe.
Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois et je suis Isabelle, une alcoolique, au micro avec vous. Alors, nous avons un site internet pour notre émission de radio AA. Ce site est Un jour à la fois, trait-d'union-émission.org. Le site est accessible aussi par le site internet de la région 87, aa87.org. Par le biais d'Internet, tu as accès à nos enregistrements sous forme de podcasts pour 2020 et 2021, ainsi qu'aux archives de partage radio. Si vous voulez venir partager votre histoire personnelle à l'émission, vous n'avez qu'à nous écrire à l'adresse courriel disponible sur ce site. Notre studio est situé au Bureau des services régionaux, au 39 20 rue Rachel, à Montréal. On peut aussi y trouver la liste de nos radiodiffuseurs ainsi que tous les horaires de diffusion. Et là, sans plus tarder, parce que moi, je suis déjà alimentée par son histoire, là, Jean-Philippe, puis j'ai hâte de continuer à ce qu'il me raconte sa vie. Et puis, c'est très intéressant comme partage. Je m'y retrouve beaucoup. Alors, il nous a parlé aussi de l'amour de soi. Hein, tu sais, qu'on a un manque flagrant de confiance et d'amour pour soi. Moi aussi, ça m'a interpellée. Alors, je te laisse continuer, Jean-Philippe.
Merci, Isabelle. Écoute, bon, il y aurait, c'est ça, tellement de choses à dire. Il y a peut-être quelque chose que j'aimerais pas oublier, que je vais dire tout de suite, c'est dans l'enveloppe du nouveau, je me rappelle, j'en ai parlé à mon parrain justement ce matin, il y a un questionnaire que j'ai trouvé bien intéressant. Si on n'est pas sûr d'être alcoolique, il y a un beau petit questionnaire qui est dans l'enveloppe du nouveau, tu sais, puis la personne qui est pas sûre, bon, hein, tu peux répondre à ces questions-là, là, pour toi-même, parce que c'est pas toujours évident. Moi, je me rappelle à mes débuts, je me demandais, suis-tu alcoolique? Comment ça marche? Ça a duré pendant des années, tu sais, parce que je savais que je perdais les pédales, là. C'était de plus en plus clair. Mais j'ai contemplé longtemps, là, mon problème, ma situation, puis j'étais jeune aussi quand ça a commencé, ces affaires-là, fait que ces écarts de conduite-là, puis ma vie, je l'ai pas toute perdue d'un coup non plus. Là. C'est sûr qu'à la fin, je me rentrais plus nécessairement tout le temps au travail. C'était de pire en pire, mais donc c'était pas aussi clair au début. Puis dans l'enveloppe du nouveau, c'est ça, on a parlé du questionnaire. Il y a le gros livre, évidemment, là. Ça, c'est un incontournable dans les Alcooliques anonymes. C'est un livre, pour ceux qui le connaissent pas encore, là, qui explique très bien les comportements là, des alcooliques. La plupart des membres à qui j'ai parlé m'ont dit ça être reconnu dans les partages. Il y a beaucoup de partages, mais aussi des informations générales sur l'alcoolisme. Là. Puis, c'est sûr, là, il y a la fameuse méthode là, des alcooliques anonymes, donc la marche à suivre, puis les 12 étapes. Là, je vais essayer d'en parler un petit peu plus tard tantôt. Mais ça peut être un livre bien intéressant quand on n'est pas sûr. La plupart d'entre nous à qui j'ai parlé, des membres là, m'ont dit qu'ils se reconnaissaient tout le temps à chaque page, puis je peux pas dire que moi j'ai été différent des autres. C'est ça. Petit ou gros alcoolique, là, je mets ça entre parenthèses, là, mais le problème est quand même le même. Là. Les manières de penser sont souvent les mêmes, les réflexes sont souvent les mêmes, les cachotteries, la honte, on en parlait avec Isabelle et Richard là, tantôt entre nous autres, là, comment ça peut être puissant, tu sais, puis comment c'est ça, comment c'est difficile, puis comment qu'on refait tout le temps les mêmes erreurs. Puis on est pourtant des gens intelligents, mais c'est quand la soif monte, des fois, la tête, elle se déconnecte, il y a quelque chose qui marche plus, puis on devient... Donc c'est ça, dans ce livre-là, c'est très bien expliqué. Ça, c'est rassurant, je trouve, quand même, de pouvoir mettre des mots sur des comportements qui sont tellement... Moi, je me demandais si j'étais pas un peu fou ou presque, là, dans le sens où c'était quoi mon problème, là, de continuer. Puis les gens autour de moi me le reflétaient aussi. C'est quoi ton problème de continuer à te détruire comme ça? Mais À quelque part, c'est ça la carrière d'un alcoolique. Petit ou grand, là, c'est comme ça qu'on marche. Je perds la tête, puis la plupart d'entre nous, on perd la tête aussi. Donc, le gros livre, c'est bien, on se sent plus tout seul, on sent que nos comportements sont normalisés. Le parrain, en te racontant, ou la marraine, en te racontant son histoire, tu vas te rendre compte qu'il y en a que c'est du vin, il y en a d'autres que c'est de la bière ou n'importe quoi, mais c'est pas mal les mêmes comportements, là. D'après mon expérience, là, donc c'est le fun. Pas mal les mêmes niaiseries, la même ampleur d'affaires pas d'allure qu'on peut réussir à faire malgré qu'on soit de bonnes personnes. Donc, ce livre-là il est très utile. Puis, bon, les 12 étapes, là, je vais passer vite à travers elles parce qu'on n'a pas des heures et des heures, là, mais il y aurait beaucoup à dire. T'sais. Donc, la première, là, d'admettre qu'on est impuissant devant l'alcool, j'ai-tu essayé de naviguer là-dedans, de bien boire, boire les vendredis, les samedis, pas boire la semaine, pas boire avant midi, boire à 9 heures le matin une fois de temps en temps. C'est ça, de me dire, je laisse ma carte de guichet à la maison, check le nombre de consommations que je bois, tu sais, à mes amis, là, exemple. Donc, à un moment donné, je me rendais bien compte que je n'étais plus capable, que c'était tout ou rien, c'était tout ou pas en tout. Mais tout seul, je le savais pas mal, mais quand d'autres personnes te le racontent, qu'eux autres aussi, c'est le même pattern, là, mais là, je me suis encore plus rendu compte que oui, c'est sûr que j'avais dépassé la ligne. Puis il y a un thérapeute qui m'avait dit, un coup que tu as joué dans les ligues majeures, tu peux plus aller jouer dans une petite ligue. Tu sais, j'avais trouvé l'image vraiment frappante. Puis c'est vrai, tu sais, quand tu es habitué à t'enivrer puis à dépasser les limites de la normalité, ben juste boire normalement, c'est pas satisfaisant. C'est pas... on aimerait bien ça, là, être comme tout le monde, mais là-dessus... Non, ça marchait pas. Donc, première étape, oui, c'est bon pour moi. Nous en sommes venus à croire qu'une puissance supérieure à nous-mêmes pouvait nous rendre la raison. La deuxième étape. Bon, puissance supérieure, moi, je concevais que dès qu'un alcoolique qui n'était pas en obsession, un alcoolique sobre, là, abstinent, qui n'était pas en obsession, était supérieur à moi. Donc, mon parrain, Steve, il était supérieur. Ça a été, on peut dire, entre guillemets, ma puissance supérieure. C'est ça, parce que lui, il était pas dans ce pétrin-là. Il était pas à risque comme moi. Donc, tu sais, c'était... Là, c'est sûr que la puissance supérieure, là, je m'en suis fait une définition. Je me la suis appropriée. Mais à la base, ça reste des alcooliques qui boivent pas aujourd'hui. Un groupe, pour moi, c'est quelque chose de sécurisant. C'est un endroit... On peut dire que c'est une puissance supérieure, parce que... supérieur à moi parce que moi j'ai envie d'aller me dévisser la tête, tu sais, puis c'est pas très très ça vole pas haut là ces idées là quand tu sais comment ça va finir donc voilà, ça a souvent été ma puissance supérieure, les groupes, puis ça m'a souvent sauvé, comme j'expliquais tantôt, quand j'avais soif, puis là j'arrivais dans un meeting, ça se désamorce là, ça vient qu'à passer, tu te changes les idées, tu écoutes la personne qui partage là, qui te reflète comment ça va finir si tu vas consommer, puis il y a quelque chose de vraiment beau dans les partages, c'est toujours ça finit bien, tu sais, un partage parce que la personne est elle a pas bu là, c'est une histoire à succès là, son affaire là, fait que ça ça va jamais finir mal là, parce qu'il a pas bu aujourd'hui, c'est ça qui est beau là. Puis il a sûrement pas bu la veille pour être capable de parler, fait que c'est toujours bien inspirant. Donc ça me donnait souvent les forces de faire un autre petit 24 heures, un autre petit bout de plus. Donc nous avons décidé, la troisième étape, à confier notre volonté et notre vie aux soins de Dieu tel que nous le concevions. Ça, c'est l'étape préférée de mon parrain, puis c'est quand même la mienne aussi quand je pense, quand je réfléchis comme du monde. T'sais, moi, je suis un peu mal à l'aise parce que les 12 étapes, oui, comme il me disait ce matin, Steve, je les fais, mais moins peut-être d'une manière classique. T'sais, je les vis, puis tout ça, mais bon, apparemment que je les fais quand même. Puis la troisième étape, c'est... juste faire confiance à la vie, tu sais, d'une manière ou d'une autre, si tu dis oui à ta journée, tu vas la traverser. D'une manière ou d'une autre, là, tu vas arriver au bout de la ligne, là, puis peut-être que ça va être difficile au départ, là. Il y a des journées plus crunchy un peu, là, surtout quand c'est ça, tu arrives dans ton abstinence, puis ça peut être, il y a des malaises qui arrivent, mais si t'as fait dans mon cas, si je faisais une journée, ben, j'avais réussi ma mission, là. Je voulais plus devenir J'avais vraiment des ambitions, quand même, c'est démesuré. de réussir ma vie. C'était quoi? Réussir ma vie. Il fallait que je réussisse ma vie. Mais là, en arrêtant de boire, réussir ma vie, c'était juste de pas consommer. Fait que, tu sais, passer une journée, je disais oui, je sortais de chez nous, c'est ça. Et à un moment donné, j'ai arrêté de boire, mais j'allais travailler, puis je restais chez nous à écouter la TV. Fait que, tu sais, ça a fait un an, là, mais c'est pas satisfaisant, ça. Ça peut pas marcher pour moi, en tout cas. Fait que la troisième me dit, bon, ben, aie confiance que tu vas la traverser ta journée, puis essaie de t'ouvrir à ce qui peut t'arriver, puis aux autres, puis peut-être que tu vas avoir du fun, puis peut-être que tu vas t'habituer doucement à être, à pas avoir besoin d'alcool, tu sais, pour geler tes malaises. Donc, troisième étape, lui, il dit souvent, Steve, just watch the movie. Je sais pas si c'est écrit dans le livre, mais fais juste, comme, essaie de pas trop contrôler, là, ce qui pourrait t'arriver dans la journée. Le fameux metteur en scène. Metteur en scène, c'est quand même assez incroyable, ça, parce que, aussi pour le bien que pour le mal, là, tu sais, en tout cas, je rentrerai peut-être pas là-dedans parce qu'on n'a pas tant de temps, là, mais le fait de vouloir contrôler mes journées, j'essaie de lâcher prise. C'est ça que j'essaie de dire, là. Puis, de juste avoir confiance que je serais capable, comme la plupart des gens, de traverser la journée. Donc ici, quatrième étape, nous avons procédé sans crainte à un inventaire moral approfondi de nous-mêmes. C'est ça que ça permet beaucoup, l'abstinence, le fait d'être face à soi-même, là. Tu sais, d'être vrai, je suis qui, moi, là, à jeun, là? Comment que, tu sais, c'est plus des cas. Là, on me fait signe qu'il faut que j'abrège, là, mais je vais continuer parce que c'est vraiment important de pouvoir s'introspecter. Ouais.
Ouais, traverser les étapes comme ça, ça permet aussi de voir comment tu les vis, comment tu les comprends, comment tu les traverses. C'est sûr qu'on a un programme de 12 étapes, hein, c'est notre mode de vie. Déjà, la 1, 2, 3, là, je trouve que ton explication est excellente. C'est sûr que même ta troisième étape, tu sais, qui est une confiance, c'est comme s'abandonner, hein. C'est quand on dit on s'abandonne à une puissance supérieure, Dieu, ou on l'appelle comme on veut parce que c'est celle que nous concevons. Je trouvais ça très intéressant parce qu'effectivement, c'est une confiance, s'abandonner puis lâcher prise. Mmh. Ça, c'est un grand changement dans nos vies parce que la plupart de nous, on contrôlait. On voulait être le metteur en scène. C'est notre anxiété aussi, nos peurs qui prenaient le dessus à la place de confier puis, tu sais, passer une journée à la fois. Tu l'as tellement bien exprimé, comment passer un 24 heures. En tout cas, merci beaucoup pour ça. Puis j'ai hâte d'entendre la suite de tes étapes. Passons à la pause immédiatement.
Je me sentais seule, angoissée, agressive, et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidée à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur AA.org.
Vous écoutez l'émission Un jour à la fois en compagnie d'Isabelle et son équipe.
Nous sommes de retour au dernier segment de notre émission Un jour à la fois. Si tu souhaites en apprendre davantage sur le mouvement AA, vous pouvez aller consulter le site officiel des Alcooliques anonymes du Québec sur aa-québec.org. Ce site contient une foule d'informations sur cette grande fraternité. Par exemple, si vous ressentez le besoin de parler, le numéro de la ligne d'aide téléphonique de votre région s'y trouve. Vous cherchez une réunion? Eh bien oui, la liste des réunions à travers le Québec est affichée à cet endroit. Très pratique si on part en vacances quelque part ou si tu sais on sort de notre région. En fait, on peut faire des meetings partout dans le monde, partout au Québec, partout au Canada. C'est international. Aussi, ben en temps de pandémie, il s'est développé des réunions en ligne, des réunions sur Zoom, des réunions aussi sur téléphone qui s'appelle Au bout du fil. En fin de compte, il y a plein de manières de faire des meetings partout. Et de différentes façons. Donc, il n'y a pas de raison là, d'éviter d'en faire un au besoin. Tout est là pour nous. Et puis là, on peut retrouver aussi notre ami Jean-Philippe. Notre ami Jean-Philippe qui nous partage son rétablissement en ce moment. Et puis ça aussi, d'écouter un partage, ça nous aide. C'est pour ça aussi le but de faire des meetings. Là, on est chanceux, on a un beau partage à la radio aujourd'hui. Alors, on va continuer la suite des étapes, sûrement au travers la vie et l'expérience de Jean-Philippe.
Oui, ben oui, c'est sûr que j'aimerais continuer un petit peu dans les étapes, mais premièrement, bravo à tous ceux qui ont traversé la pandémie. Là, ça a été quelque chose qui a testé tout le monde, mais les consommateurs, là, j'ai entendu dire qu'il y avait eu plusieurs rechutes. Ça a été tellement difficile pour tout le monde, l'isolement, le fait d'être... Il y en a qui ont perdu des jobs. Ça a été la vraie vie x10, là, quand même. Donc oui, heureusement qu'il y a eu des meetings en ligne et tout ça, mais ça a été tough. Déjà que la vie, en général, ça peut être très difficile, mais ce qui nous est tombé dessus, ça nous a vraiment mis à l'épreuve. Donc bravo à tous ceux qui écoutent, premièrement. Juste d'écouter, je sais pas où vous en êtes dans votre cheminement, mais c'est déjà un grand premier pas vers... ça parle beaucoup, là. On veut s'en sortir, on veut continuer à bien aller, on veut s'améliorer. Quand on écoute une émission comme celle-là, quand on prend un livre, quand on prend soin de soi, là, ça parle beaucoup qu'on espère du mieux, qu'on a encore confiance. Puis, bravo à tout le monde. Là, c'est bien. Là, on dirait qu'il n'y a presque plus de cas de COVID et tout ça. Là, on va espérer que ça continue. Puis, ça a été une opportunité, je pense, de tester nos fameux mécanismes, nos trucs, nos outils. Là, ça a été... comme quoi, on n'en a jamais trop, je trouve. On n'en a jamais trop parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Ça peut être un décès, ça peut être une rupture. Moi, j'ai quitté ma copine il y a quelques mois. Avec l'école, c'est ça, je suis retourné aux études. Bien là, il y avait les examens, il y avait toutes sortes de beaucoup de pression. Puis, ça porte à boire, tout ça, là. Quand on n'est pas en forme, là, le ressentiment, des fois, on peut se pogner avec notre parrain ou n'importe qui. ça nous arrive pas, mais bon, ça peut arriver. La vie, c'est pas toujours un long fleuve tranquille, comme on dit. Fait que bravo, faut pas lâcher avec la pandémie qui, j'espère... s'achève. Donc, je t'ai rendu à la quatrième étape. Moi, c'est ça que ça me permet de faire, là. Le fait de pas consommer, c'est d'avoir toute ma tête, vraiment, de plus m'en faire accroire. On parle beaucoup de la rigoureuse honnêteté dans les alcooliques anonymes. Le fait que si on se cache un peu la vérité, on peut s'en passer des vites, puis nos vites à nous autres, ben, ils risquent de coûter très cher, là. Ça peut être, c'est ça qu'ils disent, hein. L'alcool, la folie. L'hôpital, la folie ou la mort, ouais, c'est ça. L'hôpital, la prison ou la mort, là, c'est quand même gros, mais ça peut quand même aller jusque-là pour de vrai. Pour de vrai. Fait que d'où l'importance, je pense, de se tenir en forme. Puis la quatrième étape, de voir honnêtement, c'est quoi, là, qu'est-ce qu'on a fait de bien, oui, mais de aussi moins bien, tu sais, pour chercher à être plus dans des comportements, je trouve, qui sont mieux, qui sont plus favorables au rétablissement, plus favorables à l'harmonie, au fait d'être en paix avec soi-même et en paix avec les autres, tu sais. Puis, c'est ça. Ça prend une tête qui débrume quand même. Ça prend, pour ma part, ça prend quand même quelques semaines d'abstinence. Puis là, le temps que la poussière redescende un peu, puis ça permet d'aller faire la paix, je trouve, avec le passé, tu sais, parce que ça va amener à pouvoir aller s'excuser, là. J'ai planté là une madame, là, qui m'avait engagé, là, puis du jour au lendemain, j'avais soif, puis là, je suis pu rentrer, puis là, c'était le gros de la saison. On vendait des légumes au marché Jean Talon, puis bon, moi, mon obsession était trop forte, puis là, ben, j'avais été boire la veille, puis j'étais pas rentré, je l'avais texté pour lui dire que je rentrais plus, tu sais. Ben, je suis retourné, j'étais un peu gêné, mais comme je voulais plus avoir honte de mes comportements, je me suis dit, ben, Caroline, je vais aller m'excuser. Je vais aller dire, ben, je vais aller lui expliquer la situation aussi. Puis j'ai été très bien reçu par cette dame-là, là, tu sais. Donc, ça, c'est un petit peu plus loin dans les étapes. On peut faire des amendes honorables, là. Demander pardon, pas se mettre à genoux, mais expliquer, ben, que j'ai eu des problèmes d'alcool, puis bon, j'ai pas bien agi parce que j'étais sous cette emprise-là. Puis la plupart des gens tous les gens à qui j'ai fait des excuses m'ont bien accueilli. Quand j'ai humblement été expliqué que, bon, mais c'était pas pour m'humilier ou c'était pas pour justement me traîner à quatre pattes ou quoi, là, mais c'était juste pour être correct avec le monde. T'sais, je voulais avoir bonne conscience. Puis je me rendais compte que dans ma quatrième, il y avait des affaires pas correctes que j'avais faites, soit à ma famille, mes parents... c'est ça, aux gens qui nous aiment, tout ça, puis à des employeurs, à des amis, à des... Donc, cette quatrième étape-là, moi, je trouve que c'est ce que ça m'a permis, là, de plus voir vraiment, là, qu'est-ce que je portais en moi. Pour, c'est ça, c'est pas grave les problèmes et tout ça, parce qu'il y a des solutions. Il y a surtout des solutions, mais encore faut-il voir qu'est-ce qui a changé. Fait que quand on débrume, on peut se permettre de faire à notre rythme. C'est quelque chose qu'on fait quand on est prêt, puis avec l'aide d'un parrain ou avec l'aide de bons membres qui connaissent un peu plus ça, puis qui ont acquéri une espèce de maturité, ben on peut être guidé là-dedans, puis c'est tout pour nous alléger, en fait, là. C'est fait pour être... Moi, je veux bien vivre. C'est ça mon but, là. Puis la vie allait bien quand j'étais sous puis intoxiqué pendant 2-3 heures ou pendant une nuit, là. J'avais plus aucun problème, mais maintenant que j'ai débossé, là, il y en a des problèmes et je veux les régler. C'est ce qui me permet, moi, de pas avoir de culpabilité, de pouvoir être un gars qui est fier de se regarder dans le miroir le matin et puis de pas avoir honte de mes comportements. Donc... Mais ça, c'est ça, parce qu'on peut accumuler pas mal de coches mal taillées là, en étant alcoolique. Fait que c'est ça, il faut y aller à notre rythme avec bienveillance, tout dépendant de notre spiritualité, tu sais. On peut dire qu'il y a quelqu'un à quelque part peut-être où il y a une manière d'être aimé inconditionnellement, puis les membres nous reflètent ça, que t'auras jamais fait assez de mauvais coups pour être quelqu'un qui est plus aimable. Tu sais, il y a des gens qui ont tué, il y a des partages entendus, il y a des affaires qui se sont passées. Les gens ont fait beaucoup d'erreurs. En prison, là, j'ai étudié en travail social, puis les statistiques, là, les gens qui aboutissent en prison, c'est beaucoup des méfaits faits sous l'influence de drogue ou d'alcool. Tu sais, c'est pas que la personne est mauvaise, mais quand on est intoxiqué, des fois, on va faire des affaires condamnables, tu sais. Donc, d'apprendre à se pardonner, tout ça, c'est de voir le beau en dedans de nous autres, puis de se dire que, bon, quand on a fait des erreurs, c'était peut-être qu'on était pas au top. On était très égoïste, très centré sur nous, très malade. Fait qu'un coup qu'on arrête l'alcool, là, la guérison peut commencer à s'opérer, puis on peut devenir des gens qui ont, même si on a des lourds passés ou qu'on traînait beaucoup de honte, on peut revenir correct. On peut, à force de travail, là. Donc, il y a ça qui est pour la quatrième, cinquième étape aussi, j'y ai touché. Faut être tout à fait prêt, oui, à faire le travail. La sixième étape, là, peu importe, c'est ça encore là, la conception qu'on se fait de Dieu, on peut embarquer qui on veut dans nos pensées pour se donner du courage, de la force, de l'inspiration. Moi, je réfléchis beaucoup aux valeurs humaines, tu sais, l'amour, c'est quand même grand, puis c'est quand même beau. Là, c'est loin de mon égoïsme, là, quand je cherchais tout le temps à avoir les dernières bières dans la caisse, puis que je voulais tout le temps, je voulais jamais partager ce qui me restait dans les poches, là. Ben, c'est ça. On peut dire que ma conception de Dieu est axée vers ça. Tu sais, c'est le partage, tout ce qui nous rend plus beau, puis meilleur, tu sais, moins égoïste. Hein. Vraiment, l'alcool, ça a été beaucoup... moi qui me faisais passer en premier, tu sais, puis ça amène t'as moins d'amis en bout de ligne, t'es moins respecté, t'es moins fier de toi, je trouve. Fait que faut être prêt à travailler quand même, mais tout en douceur. C'est ça, c'est un peu paradoxal parce qu'il y a beaucoup de travail à faire, mais si on y va lentement, puis si on le fait pas tout seul, ça va quand même bien se faire, puis un peu naturellement. Fait que je veux pas décourager personne qui écouterait, puis parce que ça se fait quand même assez facilement quand on est prêt, puis qu'on s'abandonne. Quand on met juste de la bonne volonté puis on reste plus tout seul, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles puis qui vont venir assez aisément, tu sais. La dixième étape, je la trouve intéressante pour le fait de, encore là, pas s'en passer des vites. Un petit peu à chaque jour, méditer sur c'est quoi que j'ai fait de bien, oui, pour continuer à le faire, puis se réjouir, puis c'est le fun, puis tout ça. Mais qu'est-ce que j'ai fait de moins bien? C'est quoi les petites crosses que j'ai essayé de me passer ou de passer aux autres? Quel petit raccourci égoïste que j'ai emprunter, quel petit mensonge, bon, tous nos petits défauts au quotidien. Puis quand je me rends compte que j'ai peut-être lésé quelqu'un, mais j'essaie de faire un homme de moi, j'allais dire, là, tu sais, pour juste aller m'excuser, oui. Donc, c'est ça, j'aurais pu continuer à parler beaucoup et très longtemps de tout ça, mais je vais conclure là-dessus que, en gros, la première étape serait d'arrêter l'alcool et puis qu'après ça, tout est possible. Même de se retrouver dans un studio de radio un dimanche matin à vous parler. Donc, merci de m'avoir écouté, tout le monde. Merci beaucoup.
J'ai pas vu le temps passer à t'écouter. J'aurais continué. Fait que je vais m'arranger pour savoir où tu partages. pour aller te retrouver dans des salles de meeting, parce que je suis sûre que j'aimerais en savoir plus. Mais tu sais, t'es très intéressant à écouter, puis aussi, t'exprimes bien la maladie, t'exprimes bien le rétablissement. En tout cas, ton rétablissement est très intéressant. T'as dit que t'avais comme 3 ans et demi d'abstinence, là, tu bois plus, tu prends plus de drogue, puis on ressent bien que tu travailles. T'as parlé de travail, on le ressent bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour ton partage. C'est sûr que ton partage va donner de l'espoir à l'alcoolique qui souffre encore et des outils. Et puis, je tiens à remercier tous les participants à cette émission, notre invité Jean-Philippe, encore une fois, merci, nos auditeurs, l'équipe, dont Richard à la console, les collaborateurs et radiodiffuseurs. Ici votre animatrice Isabelle qui vous souhaite une bonne semaine. À bientôt!